Jean Petaut, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous autour du livre que vous venez de faire paraître, L'appel du 18 juin 1940, usage politique d'un mythe aux éditions du Bordelot. Alors Jean Petaut, vous avez mené une longue carrière à Sciences Po Bordeaux, à la fois en tant qu'enseignant et dans l'équipe de direction. Et puis les gens qui regardent les rencontres à la librairie Mola vous ont souvent croisé aussi comme présentateur et animateur d'un grand nombre de ces rencontres. Alors aujourd'hui, donc avec ce livre, vous amenez une brique supplémentaire à la considérable bibliographie gaulienne, mais vous le faites avec un livre qui est une sorte à la fois de pas de côté et d'études extrêmement précises, spécifiquement autour de la question du 18 juin 40 et de comment ce moment. Là, d'ailleurs, on va essayer de comprendre ce que c'est, hein, parce que est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est un moment, est-ce que c'est un fait historique, justement, a produit des effets et dont parmi les effets qu'il a produits, il y a le fait de devenir un mythe, c'est-à-dire quelque chose qui va faire l'objet d'un réemploi, aussi bien par De Gaulle que par ses suivants, et qui à chaque fois auront des effets politiques. Alors, sans commencer directement par la fin, mais il y a un petit paragraphe, justement vers la fin du livre, dans lequel vous dites: un seul appel, celui du général de Gaulle, non enregistré, non imprimé, on y reviendra, et pour tout dire, non écouté et non entendu, est devenu en lui-même un mythe au cœur d'un mythe plus grand encore, le mythe gaullien. Alors, qu'est-ce qui vous a, vous, donné envie, justement, Jean Petaut, de vous intéresser, justement, précisément à ce moment-là?
Alors d'abord, vous venez de le dire, Pierre, vous avez employé l'expression « mythe gaullien ». Il faut rendre, j'allais dire, à l'auteur de ce syntagme sa paternité, Sudhir Azhareddin, qui, professeur d'histoire à Harvard, grand historien, spécialiste à la fois de Napoléon et de Gaulle, avec un parcours et des origines tout à fait intéressantes, puisqu'il est d'origine mauricienne, c'est lui qui a écrit un ouvrage tout à fait remarquable qui s'appelle Le mythe gaullien, dans lequel il travaille justement sur ce que De Gaulle a pu incarner comme élément, on peut dire, à la fois mythique et de mythologie. Et moi, je suis reparti de cette notion pour essayer de trouver un petit peu, on pourrait presque dire, comme selon le principe, soit des images fractales, soit des matryoshka, vous savez, ces fameuses poupées russes, pour essayer de retrouver à l'intérieur du mythe gaullien un élément qui n'est pas forcément le noyau dur ou qui n'est pas forcément le mythe fondateur du mythe, mais qui, en lui-même, en tant que tel, constitue aussi et peut être pris et considéré comme un mythe. Et vous faisiez la gentillesse de citer à la fin de mon propos cette évocation de l'appel du 18 juin, hein, non imprimé, non enregistré et pour tout dire non entendu. Pour qu'un mythe fonctionne, et ça, ce sont les grands spécialistes du mythe, hein, évidemment. Au début de l'ouvrage, je fais référence à Mircea Eliade ou à Bronislav Malinowski, qui sont en quelque sorte, avec leur approche ethno-anthropologique, ceux qui ont travaillé sur cette question. Il faut qu'il y ait une réalité, il faut que les faits, dit Eliade, soient réellement advenus, mais qu'ils soient suffisamment flous pour qu'autour puisse naître et croître les éléments constitutifs de ce qu'on va appeler les aspects du mythe.
Sachant que ce qui est très intéressant, et ce que vous venez de souligner, c'est que le mot mythe, dans ce cadre-là, est à peine une métaphore. C'est-à-dire que la façon dont l'appel du 18 juin va fonctionner comme mythe, effectivement, correspond aux critères que vous évoquez, évoqués entre autres par Eliade, et qu'il y a à la fois quelque chose qui existe, mais qui est un peu nébuleux, et qui surtout, ce qui est intéressant, produit des effets, on va y revenir évidemment, mais qui sont des effets réels dans le monde réel de l'histoire, et en l'occurrence là, dans un premier temps de la Seconde Guerre mondiale, et puis dans un deuxième temps, qu'on évoquera par la suite. Et c'est ça qui est très étonnant avec l'appel du 18 juin.
Vous connaissez la célèbre expression « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Eh bien, on peut parodier en disant « pour qu'il y ait du mythe, il faut qu'il y ait du flou hein ». Alors, la rime est évidemment moins riche, hein, mais c'est bien quand même l'intérêt. Et quand je me suis repenché sur cet épisode particulier, sur cette séquence finalement très courte en termes de temporalité, j'ai constaté qu'il y avait un certain nombre de débats, il y avait des versions qui ne coïncident pas, qui sont même parfois totalement contradictoires. Et j'allais dire, celui qui déclenche l'affaire, c'est-à-dire De Gaulle lui-même, dans ses mémoires, on pourrait presque dire que les mémoires qui sont, il faut le rappeler quand même, écrites entre 11 et 13 ans après que les faits soient advenus. C'est 53, je crois, la publication du premier tome des mémoires de guerre, intitulé d'ailleurs « L'appel ». De Gaulle pratique la litote et l'ellipse avec un sens absolument consommé et... il dit, je vous cite de mémoire, dans ses mémoires à lui, De Gaulle, au moment où je prononçais les mots irrévocables, j'avais le sentiment de rentrer de plein pied dans l'histoire. Bon. Mais il n'en dit pas grand-chose. Et sur les conditions du départ à Mérignac, pour le coup, nos amis bordelais sont concernés, c'est encore presque plus flou. Le départ se fit sans émotion, en gros. Terminé.
Oui, alors, effectivement, puisque il va être à la fois, évidemment, le premier acteur, et comme vous dites aussi, et sur ce point lui-même, vous l'évoquez un peu plus loin dans le livre, jusqu'à un certain point, lui, il y a toute une ambivalence de Gaulle lui-même par rapport à l'appel, puisque il ne souhaite pas non plus n'être que cela. C'est-à-dire qu'il est soucieux, alors on l'évoquera un peu après, à la fois d'entretenir la flamme, ce fameux mot de flamme qui revient justement au cœur de l'appel, et en même temps, il n'est pas que l'homme du 18 juin, comme il a été aussi beaucoup appelé par la suite. Et c'est pour ça peut-être aussi, comme vous l'évoquez, que cette dimension elliptique, même au sein de ses mémoires, est présente.
Alors, c'est très juste, cette information, si je puis dire, cette indication, elle est contenue chez Jean Lacouture, donc l'auteur de la fameuse grande trilogie biographique. Lacouture dit, De Gaulle aurait dit quoi les autres dates ne seraient pas importantes fin août 44, 25 août 44 janvier 59, d'ailleurs De Gaulle ne parle pas du 13 mai 58, oui. Janvier 59, après, en disant, mais j'ai quand même été premier président de la 5e République, etc. Donc je ne sais où il parle même du 18 mars 62, c'est-à-dire de cessez-le-feu en Algérie, fin de la guerre d'Algérie. Il fait comprendre qu'il ne peut pas être résumé à l'homme du 18 juin. Mais du point de vue de l'historiographie, ce qui est intéressant quand on balaye, en quelque sorte, quand on scope les propos et les textes sur De Gaulle, en particulier de ses biographes, on se rend compte que l'expression « l'homme du 18 juin 40 », elle est plutôt tardive sous la plume des biographes et des spécialistes. Donc, vous l'avez dit, Pierre, il y a une masse considérable de textes. C'est impressionnant, bon. De ce point de vue-là, ma bibliographie, elle est très, 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 très succincte et résumée, parce que, bon, ça pourrait être un ouvrage, je pense, de 500 pages, de bibliographie sur De Gaulle. Cette expression, elle est plutôt tardive et, pour tout dire, même parfois plutôt post-mortem à De Gaulle.
Alors, justement, essayons de comprendre pourquoi, quoique tardive, cette expression a pu être employée et qu'est-ce que c'est. Justement, et vous faites dans le livre le récit de la construction de l'appel, alors avant même qu'il n'ait lieu, c'est-à-dire avec cette idée qui est quand même assez importante, qui est c'est pas du tout une opération ex nihilo, c'est-à-dire que ni pour l'un ni pour l'autre, à la fois parce que De Gaulle n'est pas personne quand il fait l'appel, il n'est pas l'un des grands chefs de l'armée française, mais il n'est pas personne du tout.
C'est ce qu'il distingue de Clint Eastwood.
Dans
mon nom est personne.
Son nom n'est pas personne, même si ce sera pour ses ennemis le général Micro. Et de l'autre côté, il a même, et ça je trouve que c'est deux moments très intéressants dans ce que vous évoquez, il a ce que vous appelez des tours de chauffe ou des galops d'essai, par laquelle il va, avant même le 18 juin, mettre en place et le discours et même la technique parce que je pense que la question de la radio est très très importante dans cette affaire-là, justement pour l'appel. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être ce que vous évoquez comme étant cette, cette tradition de, d'une forme d'indiscipline, entre guillemets, alors que ça aussi là, un débat historiographique de Gaulle, et en même temps l'idée que l'appel ne sort pas de nulle part. Il a fait l'objet, de la part de Gaulle lui-même, de pré-appel, si l'on peut dire, préalable.
J'appelle ça des tours de chauffe.
Voilà.
Hein. C'est comme s'il avait fait des galops d'essai. Hein. Voilà, hein. Bon. Mais cette expression de l'indiscipline, là encore, on la trouve chez la couture, où la couture, d'ailleurs, est, je veux dire, ça lui plaît, cet aspect-là de Gaulle. C'est le titre du premier tome de la trilogie, Le Rebelle. Hein. Et le profil d'un De Gaulle rebelle pour la couture, il relève au moins, je crois, dans le livre, j'en parle, une dizaine de cas ou 12 cas de ce qu'il appelle l'indiscipline. Alors, il y a un débat là-dessus, vous avez raison de le préciser, Pierre, au point que j'ai fait appel à un ami, je le cite dans le livre et je le remercie, hein, qui est le général Laurent, qui est, comme on dit, en deuxième section, hein, qui est un général de corps d'armée aérienne, et qui, pour avoir cette explication sur l'indiscipline. Hein, parce que, par exemple, là encore, quand on prend la dernière biographie de référence, qui est passionnante et qui est remarquable, qui est celle de Julian Jackson. Hein, en fait, j'ai travaillé sur vraiment avec trois grandes biographies, hein, La Couture, Roussel et Jackson. Hein, ça, c'est vraiment, pour moi, c'était trois éclairages tout à fait intéressant, d'autant que bah, ils éclairent pas les mêmes zones, si je puis dire, du personnage et du visage de De Gaulle. Quand on prend Jackson, je le cite d'ailleurs, il dit même les biographes anglais de Gaulle disent il aurait commis un officier supérieur anglais en temps de guerre aurait fait le quart de la moitié de ce qu'a fait De Gaulle avant le 18 juin. Depuis la déclaration de guerre du 1er septembre, l'entrée en guerre du 1er 2 septembre de la France en 39, il aurait été révoqué et mis d'office à la retraite. Ça, c'est la tradition britannique. Bon, pour d'autres, c'est de dire non, en fait, c'était un officier d'état-major qui avait une production intellectuelle et stratégique, hein, avant-guerre, hein, au moins 4 ouvrages écrits avant-guerre. L'influence du fameux colonel Meyer, hein, dont De Gaulle fréquente les cercles intellectuels dans l'entre-deux-guerres. De Gaulle, en quelque sorte, quand il produit un premier texte, qui est le fameux mémorandum, en janvier 40, où il écrit, tenez-vous bien, il renéote, comme on disait à l'époque, une soixantaine d'exemplaires de ce texte, qui est un texte adressé à la classe politique, alors que nous sommes en pleine guerre, au chef de l'armée, à Gamelin, à Weygand, etc. Et il balance un texte d'une vingtaine de pages dans lequel il dit « Bon, voilà pourquoi nous sommes en janvier 40. Si on ne prend pas un certain nombre de décisions très rapidement, ça va mal se passer quand les Allemands vont attaquer. » Ça, c'est le premier, j'allais dire, tour de chauffe de De Gaulle, le mémorandum de janvier 40. Et une autre auteur ou autrice que je cite parce qu'elle a fait un gros travail, c'est Aurélie Luneau, hein, qui est une excellente historienne, évoque aussi ce fameux mémorandum, hein, en disant « Oui, il y a bien là, en quelque sorte, la synthèse de la conception stratégique de Gaulle. Hein, » voilà. Mais la suite, et ça, c'est le côté radio, c'est Abel Surchamp, hein, qui est un officier de communication, qui va enregistrer De Gaulle.
Excusez-moi, Jean. Excusez-moi, les garçons.
Oui.
Ça lag complètement, là. Mais du coup, le lag est enregistré ou... Il y a le backup, là-bas.
Il y a un backup, oui.
Quand Jean bug, c'est enregistré là-bas. Donc, nous, on récupère...
Donc, on peut continuer normalement.
Ouais, mais après, c'est trop désagréable pour l'entretien.
Non, c'est pas gênant, c'est pas gênant, parce que je sais de quoi il parle, donc...
Ça veut dire quoi, lag?
J'avais un petit truc technique, mais en fait, il n'y a pas de problème.
Ça veut dire quoi? Tu m'entends pas?
Donc, en fait, si, mais des fois, ça fait ça.
Ah oui. Bon, maintenant, je...
En fait, nous en étions à...
Alors la deuxième illustration de ce galop d'essai de Gaulle avant le 18 juin, c'est lorsqu'il enregistre à des fins de propagande après la petite victoire de la bataille de Montcornet. Il enregistre une émission à des fins de propagande pour le quart d'heure du soldat auprès d'un officier qui s'appelle Alex Surchamp. Et on a retrouvé très tardivement cette émission enregistrée où là, de Gaulle, carrément, on est à peu près 15 jours, 3 semaines avant le 18 juin. On est à la toute fin mai où de Gaulle emploie pratiquement les mêmes termes que ceux qu'il va employer le 18 juin.
Effectivement, ça veut dire, avec, comme vous l'évoquiez, l'idée que il y a rapidement aussi chez lui la conscience. Alors, il y a tous les débats de la façon dont les Anglais lui laissent de façon plus ou moins convenante l'accès au micro de la BBC, avec plus ou moins d'affection selon les interlocuteurs. Mais il y a aussi l'idée que, de toute façon, la radio est quand même le grand média du moment. C'est la grande révolution des années 20-30 d'un point de vue technique, et que là, pour le coup, de Gaulle, qui lui-même est on va dire moderniste sur la question militaire de la mécanisation, a aussi conscience que si on veut toucher les Français, c'est forcément par ces voies-là qu'il faut passer.
Ça, c'est quelque part une de ses intuitions géniales. Il le dit d'ailleurs, il le dit dans ses mémoires bien plus tard. Mais il le dit sur le moment à des contacts, à ses premiers contacts, aux premières rencontres qu'il a. C'est pour moi l'urgence, c'était de planter le drapeau et de hisser les couleurs. Et je dis dans le livre, et en fait, il se sert de l'antenne de radio de la BBC, du mât de la BBC, du mât radiophonique, pour mettre le drapeau français. Et c'est assez. Alors la métaphore, l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est exactement cette idée qu'il a, et vous disiez tout à l'heure, ses adversaires vichistes vont l'appeler le général Micro, parce qu'en disant, bah, finalement, voilà exactement l'armée de ce déserteur et de ce dissident, enfin voilà, de ce général félon, c'est une armée de mots, c'est ni plus ni moins Don Quichotte, c'est un phraseur. La preuve, on ne l'entend qu'à la radio. Bon. Mais le coup de génie de Gaulle, ça va être de dire ça passe par là. Et vous avez parfaitement raison de dire que la BBC devient à ce moment-là un outil que lui met à disposition de Churchill et qui fera que de Gaulle sera toujours, malgré les relations parfois exécrables avec Churchill, reconnaissant à Churchill d'avoir fait ça. Parce qu'effectivement, dans le War Office ou dans le War Cabinet, là où il y a Halifax, là où il y a Cardogan, là où il y a même Chamberlain qui traîne encore par là, certains sont pour lui couper le sifflet et lui couper le micro, très clairement. Pourquoi ? Parce que les Britanniques ont une seule obsession, au moins dans les tout premiers jours qui suivent le 18 juin, on va dire jusqu'au 25 juin, 30 juin, c'est essayer de ne pas provoquer Vichy pour faire en sorte que Darlan et la flotte française ne partent pas entièrement entre les mains des Allemands. Et ça, c'est l'obsession numéro un des Anglais qui essayent je dis qu'ils pratiquent en quelque sorte la bigamie en matière de relations diplomatiques, au moins pendant une petite semaine, si ce n'est pas une dizaine de jours.
Dans son genre, mais c'est pas l'objet, Roosevelt sera aussi maître en la matière.
Oui, mais enfin, alors lui c'est pas la bigamie, c'est qu'il ne supporte pas de Gaulle. Et on peut dire que jusqu'au bout, de Gaulle va être, j'allais dire, presque sous le feu diplomatique de Roosevelt. Et d'ailleurs, je le rappelle, pourquoi est-ce que le 18 juin 42 est un moment particulier dans la commémoration. En 41, le 18 juin n'est pratiquement pas, entre guillemets, commémoré et célébré. De Gaulle est pris dans les raies, dans les filets du Levant. C'est très compliqué. Vous connaissez la phrase de De Gaulle, vers l'Orient, compliqué, je volais avec des idées simples. En réalité, les idées ne sont pas simples et l'Orient est vraiment plus simple que compliqué, puisque l'Orient, en fait, il est entre les mains des Anglais, point barre, qui n'ont pas envie de lâcher grand-chose aux Français. C'est donc tout ce qui va se passer en Syrie. Et c'est de là, d'ailleurs, que va naître la fameuse querelle très forte entre Spears, qui était pourtant dans l'avion du départ de Bordeaux le 17 juin au matin, et De Gaulle. Mais le 18 juin 1942, là, pour De Gaulle, c'est le premier grand 18 juin. Il y a tout le passage assez émouvant de la cérémonie à l'Albert Hall, avec le témoignage qu'en donne Daniel Cordier, mais également d'autres compagnons de la Libération dont j'ai eu l'occasion d'interroger les descendants sur cette cérémonie à l'Albert Hall. Et pourquoi est-ce qu'il est important ce 18 juin 1942 pour De Gaulle? D'abord parce que c'est quelques jours après la victoire de Bir Hakeim, premier épisode de bataille que les Anglais reconnaissent pour les forces françaises libres, qui en 18 juin 1942 deviennent la France combattante et non plus la France libre. Et puis, c'est aussi le moment où justement Roosevelt essaye d'envoyer des missiles contre De Gaulle, en particulier en activant un personnage assez particulier qui s'appelle Alexis Léger, qui n'est autre que Saint John Perse, dont d'ailleurs je recommande la lecture du livre de Frédéric Mitterrand, 1938, dans l'œil du cyclone, puisque Frédéric Mitterrand fait un portrait remarquable d'Alexis Léger, donc secrétaire général inamovible du Quai d'Orsay, qui est aux États-Unis et que Roosevelt essaye d'envoyer à Londres pour, on va dire, quelque part, ennuyer De Gaulle. Et ça marche pas.
Alors, justement, vous avez commencé à l'évoquer en disant que, en fait, dès le début, dès pendant la guerre, il y a des cérémonies, même si elles sont évidemment en petit comité, de célébration du 18 juin. C'est-à-dire que le 18 juin est dès la première année, même si, mais surtout la deuxième, en 42, un moment important. Donc ça veut dire que déjà, quand même, De Gaulle a conscience que se noue autour de cette date-là quelque chose d'important. Et il faut aussi bien l'évoquer, c'est-à-dire que c'est quand même un moment historique qui est médié dans l'image de bien des Français par la question scolaire, où a été employé des images de De Gaulle devant son micro, l'image d'une certaine affiche d'un appel aux Français, et que tout ça est venu se mêler. Et ce que vous débrouillez très bien dans le livre, c'est de dire, en fait, et c'est ce que j'évoquais avec votre citation au début, soyons clairs, ce qui a lieu véritablement historiquement le 18 juin 40 n'est ni enregistré, ni photographié, et probablement à peine entendu. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler.
Puisque, par exemple, le 19, 20, 21 juin, là où De Gaulle est momentanément privé de micro, puisque ça, c'est Jean-Louis Crémieux-Briac, auquel il faut rendre hommage, parce que c'était vraiment un homme absolument à la fois délicieux, je le dis dans le livre, et d'une très, très grande compétence historique. Lui qui va rejoindre Londres pour être au service de la propagande à partir de 1941, quand il réussit à s'évader de la situation dans laquelle il était à l'est de l'Europe. Crémieux-Briac parle bien d'ailleurs des différents appels de De Gaulle, puisqu'on a même retrouvé des appels écrits par De Gaulle, mais non prononcés. Et par exemple, le 19, on pense qu'un speaker, en lieu et place de De Gaulle, va relire le texte au micro, mais c'est pas De Gaulle. Voilà. Et on n'a tellement pas l'enregistrement, ni bien sûr la photo du 18 juin, on pense que c'est vers 18h, c'est qu'une bombe allemande lors du Blitz a détruit le studio 4B de la BBC, et donc il n'y a plus aucune trace. Et la fameuse photo où l'on voit dans les manuels scolaires, comme vous le dites très bien, Pierre, De Gaulle face à un micro, vaguement parolié par un candidat à la présidentielle de 2022, ce n'était pas le bon micro et ce n'est pas du tout le bon contexte. Eh bien, cette photo, elle date en fait de 1941. Alors que c'est une photo qui est dans tous les manuels d'histoire et qui nous dit, et qui est parfois légendée, appel du 18 juin du général de Gaulle en 1940. Et vous parliez de l'affiche, c'est cette fameuse affiche à tous les Français libres qui est placardée sur les murs d'un certain nombre de villes de Grande-Bretagne au tout début juillet 40. Cette fameuse affiche avec bleu, blanc, rouge et la croix de Lorraine, avec la phrase que tout le monde croit être dans le texte de l'appel du 18 juin. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Eh bien, ce n'est pas du tout dans l'appel du 18 juin, c'est dans cette affiche. Donc, on a même eu des confusions entre l'écrit et l'oral. Et ça, par exemple, pour le coup, c'est constitutif d'un mythe. Parce que, encore une fois, le mythe s'alimente, on y reviendra, des imitations successives et postérieures qui vont le faire, mais il s'alimente aussi des circonstances, comment dire, imprécises, de ce qui constitue sa naissance.
Oui, il faut...
C'est sa naissance.
Il faut qu'il y ait plusieurs versions. C'est-à-dire que, comme dans une, enfin, comme dans une religion aussi, c'est-à-dire qu'il faut le texte lui-même, et ce qu'a établi justement Crémieux-Briac, c'est aussi que même entre le texte prononcé, enfin probablement prononcé, et le texte écrit, même si à la fin ça se joue à la marge, mais il y a aussi, même là, il y a des variantes.
Ça, c'est contenu dans le 18 juin de Gaulle, écrit par Henri Amouroux. Deux versions. Une première en 64, une réédition en 70, postérieurement au départ de De Gaulle. Dans l'édition de 64, Amouroux, qui a écrit son livre, va voir le général à la fin, qui est à l'Élysée. Et il a une batterie de questions. Il raconte ça dans son livre, et en particulier dans la version de 70. Il fait un peu il nous décrit le making-of de la séquence de 64. Et Amouroux dit, est-ce que vous avez fait lire votre texte de l'appel du 18 juin aux Anglais? Et De Gaulle répond, de ma vie, je n'ai jamais fait lire quoi que ce soit que j'ai écrit, sauf parce que Duff Cooper, qui était le ministre de l'Information, qui était très proche de De Gaulle, et proche de Churchill, lui a demandé s'il pouvait lire le texte à l'occasion de Mersel Kébir. Vous savez, cet épisode terrible. Mersel Kébir, c'est le port militaire d'Oran où les Anglais, la flotte anglaise, va tirer sur des navires français. Et ça va être, avec Dakar, un des deux grands moments très compliqués pour De Gaulle, parce que d'abord, on est à l'été 40, et c'est compliqué. Et là, De Gaulle va choisir entre soutenir les Anglais et... j'allais dire condamner cette agression de la flotte française. Il soutient les Anglais. Churchill lui est très reconnaissant. De Gaulle a fait lire son texte sur Mersel Kébir, à l'occasion de Mersel Kébir. C'est ce que reconnaît De Gaulle. En fait, les historiens considèrent aujourd'hui, à juste raison, qu'il y a effectivement eu, entre le texte écrit et le texte prononcé, le texte écrit étant le texte authentifié pour l'histoire et le texte prononcé étant celui qui a été effectivement dit le 18 juin, une amodiation, en particulier dans l'exergue, dans l'entame, où De Gaulle a rabattu un peu la critique à l'égard du nouveau gouvernement de la France, dirigé par le maréchal Pétain, où les Anglais ont sans doute lui ont demandé d'atténuer un peu sa critique.
Alors justement, la première question qui se pose et que vous abordez, on va dire, dans le deuxième temps aussi, qui est le moment où vous évoquez la question des compagnons de la Libération et de leur fraternité, avec tous les sens qu'on peut donner à ce mot, c'est finalement, puisque l'appel en lui-même n'est pas entendu sur le moment, il y a quand même un certain nombre de personnes qui, dans les environs, on va dire, de cette deuxième semaine de juin, de cette troisième semaine de juin, vont prendre des bateaux qui à Bayonne, qui à Ouessant, qui, enfin, on connaît l'histoire. Qu'est-ce qui finalement va motiver ces personnes-là? Est-ce que vous dites aussi, ce qui est quand même assez fort, c'est que au final, on va dire, le discours de Pétain, qui est quasiment contemporain, aura presque plus d'effet sur un certain nombre de jeunes gens que ce discours inentendu de Gaulle.
Alors, d'abord, c'est pas moi qui le dis, je répète. Oui. Vous avez raison, Pierre, mais ça, c'est vraiment Crémieux-Briac qui le dit. Et je suis complètement en phase, entre autres choses, avec cette appréciation-là. Il a tout à fait raison. Et c'est confirmé par les témoins. Oui. Par exemple, Daniel Cordier, dans Alias Caracalla, il le dit clairement. Le fameux discours du 17 juin, c'est le cœur serré que j'ai pris contact cette nuit avec les Allemands, etc., pour régler dans l'honneur les conditions d'un arrêt des combats. Bon, En réalité, la préoccupation principale de Pétain et de Végan, c'est que, pardon de le dire aussi clairement et trivialement, l'armée s'en sorte les cuisses propres de cette histoire. Ils ne veulent surtout pas qu'il y ait une mise en cause des militaires. Donc, ils vont tout faire porter aux politiques. Et à partir de là, en particulier dans l'autre discours très connu du 25 juin, écrit par Emmanuel Berle, la Terre, elle, ne ment pas, c'est la volonté de mettre en cause les politiques qui auraient bercé d'illusions les Français depuis un certain nombre d'années, et en particulier depuis 36, très clairement, depuis le Front populaire. Bon. Donc, ça, c'est la démarche politique de Pétain, qui est, j'allais dire, une approche, avant d'être idéologique, qui est une approche, j'allais dire, tout simplement corporatiste. Hein, faire en sorte que l'armée et les chefs militaires ne soient pas mis en cause. Mais en prononçant ce discours le 17 juin, qui, lui, est vraiment entendu. Parce que là, les Français, en tout cas ceux qui ne sont pas sur les routes, ils sont autour de leur meuble de radio, dont je rappelle qu'il faisait à peu près 1,20 m de haut et que c'était la télévision de l'époque. Les gens écoutaient la radio à lampe, assis autour du poste de radio. Ils savaient, par les différentes annonces de Radio Paris, de la radio française, que le maréchal, le nouveau président du Conseil, Pétain en plus, l'homme de Verdun, etc., allait parler aux Français. Mmh. Et Caracalla, je veux dire, et Daniel Cordier dit qu'il s'attendait à ce que Pétain dise « Allez, on résiste, on se bat, etc. » Et donc, tous ces jeunes, en particulier, qui voulaient continuer le combat, mais ils tombent de leur chaise en entendant ça. Et c'est ça qui va provoquer les quelques départs, parce que, malheureusement... Oui. On sait qu'ils sont quand même pas très 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 nombreux, mais voilà. Mais en tous les cas, c'est là qu'il va y avoir, j'allais dire, ce départ, cette sorte de mobilisation qui d'ailleurs souvent part de Bordeaux, parce que en fait finalement toute la France qui pouvait agir ou décider était à Bordeaux, hein, de ce point de vue-là. Et c'est comme ça que va y avoir ces premiers départs pour Londres, en tous les cas qui sont les derniers possibles. Puisque, en gros, à partir du 18-19 juin, il n'y a plus de bateaux qui partent, quoi. Hein, voilà, hein. Et Madame de Gaulle, qui, elle, est à Carantec avec son fils Philippe, Elisabeth et la petite Anne, il faut le rappeler, à 20 ans, hein, à ce moment-là, elle n'a pas 20 ans, puisque je pense qu'elle est née en 29, hein, donc elle a 11 ans, oui, hein. Elle va mourir à l'âge de 20 ans, donc on sait qu'elle est trisomique, avec l'accompagnante qui est Madame Potel. Elles partent de Carantec à Brest. Elles réussissent à prendre un dernier bateau qui part de Brest. Il y a deux bateaux qui partent en même temps. Celui qui accompagne ce bateau et qui vont, le bateau qui va ne pas être torpillé, c'est celui de Madame de Gaulle. Et il arrive à Folmouth, l'autre bateau est torpillé. Et ça, c'est parti des tout derniers bateaux avec les premiers futurs compagnons. Et c'est pour ça que j'ai eu la possibilité et la chance de solliciter les héritiers, si je puis dire, ou les descendants de trois d'entre eux qui sont arrivés donc avant le 18 juin à Londres, qui donc n'ont pas entendu l'appel. Donc Pierre Julitte, Alain Gaillet et Yves de Daruvar, tous les trois compagnons de la Libération qui ont eu des vies absolument incroyables. Et ça m'a paru intéressant d'avoir la narration, hein, de ce mythe rapportée par, non pas des témoins qui ont entendu l'appel, mais qui ont connu de Gaulle très très tôt, j'allais dire à partir du 22 juin 40, du 23 juin pour Pierre Julitte, et puis après à l'Olympia Hall pour Alain Gaillet.
Alors ça, justement, je trouve que c'est aussi une partie très intéressante du livre, dans laquelle vous faites à la fois sentir à quel point cette aventure est une aventure personnelle d'individus, et les compagnons de la Libération, alors vous y reviendrez, mais c'est effectivement donc cet ordre mis en place par De Gaulle très tôt, avec un numerus clausus, la Libération étant accomplie, l'ordre est fermé. Mais ce que vous montrez très bien, c'est que on n'a pas affaire, pour dire les choses très trivialement, à un fan club. C'est-à-dire qu'on a affaire à des individus qui vont être confrontés à quelqu'un dont ils sentent tous, ça c'est sûr, que la personne de De Gaulle est une personne singulière, extrêmement forte, extrêmement puissante, que c'est un chef, mais c'est pas pour autant une adhésion aveugle. Il y a même pour certains une sorte de dépit face à la froideur de la personne. Quand il les accueille, ils s'attendent un peu à un discours de type « on les aura ». Et en fait, c'est pas le genre de De Gaulle de dire on les aura. Et donc, je trouve que justement, dans les récits qui vous sont faits de ces rencontres avec le De Gaulle, très jeune chef de la France libre, ça c'est assez passionnant parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a ce que vous appelez à la fois la transfiguration, c'est-à-dire comment ce général devient une espèce de figure qui le dépasse lui-même, et en même temps qui reste un homme, et de ce qu'on en comprend, pas un homme dont la chaleur humaine était la première des qualités.
Ben c'est ça qui est assez fascinant. C'est à la fois ce que rapporte très bien Sudhir Hazarezing quand il dit la figure de De Gaulle, le mythe gaullien a provoqué, pour le coup, là, pratiquement des comportements comparables à ceux qu'on pouvait avoir face à une rockstar. Mmh. Hein, je cite ce passage de cet ancien combattant de l'armée de l'âtre qui dit « Je me suis marié un 18 juin. Comme ça, il écrit ça à De Gaulle. Hein, je me suis marié un 18 juin, après la guerre. Comme ça, à chaque anniversaire de mariage, je pense à vous. » Et Hazarezing, qui manque pas d'humour, dit « Comme aurait dit la princesse Diana, il y en a un de trop dans le couple, quoi. Bon, c'est extrêmement drôle. Et cette cantatrice qui dit « Je voudrais vous toucher. Hein, » si je pouvais avoir l'occasion de vous toucher, ça serait pour moi un bonheur absolu. Là, on est en 49, 50,
là,
51.
On est après la guerre.
Alors, on est déjà après, mais en face de ce qui devient une sorte d'engouement, il y a, j'allais dire, les compagnons, dont il faut rappeler que De Gaulle, un temps, avait envisagé d'appeler ça les croisés, mais enfin, il les appelle les compagnons, qui, eux, j'allais dire, je dirais pas qu'ils étaient tous des têtes brûlées, mais si on les prend individuellement, la plupart, quand même, c'est de sacrés caractères, c'est-à-dire des sacrés personnages. Et ils sont, à l'égard de De Gaulle, assez libres, finalement, hein, dans leur relation interindividuelle. Et les témoignages que j'ai recueillis montrent, en gros, les différentes couleurs du spectre entre un Pierre Julitte, manifestement, lui, très gaullophile, si je puis dire, entre un Alain Gaillet qui est quand même frappé par le côté très sec du personnage. Ça, c'est la fameuse visite à l'Olympia Hall. Hein, manifestement, vous le rappeliez, Pierre, il ne les cajole pas. Et d'ailleurs, Daniel Cordier, dans ses mémoires, dit « C'est donc ça, mon chef. Un type froid, pas sympathique. Va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça. » Bon, ils tombent un peu du placard. Et puis, un Yves de Daruvar, pour qui De Gaulle a un côté insupportable, y compris par la suite de sa carrière. Mais ce qui est plus important, c'est que tous, puisque les trois ont connu le décès de la disparition du général De Gaulle le 9 novembre 70 et la fameuse sépulture à Colombey-les-Deux-Églises, il faut rappeler que dans ses dernières volontés, De Gaulle dit « ne seront présents à l'église que ma famille et mes compagnons ». Et tous les autres gaullistes, et pourtant il y en avait quand même, politiques, etc., j'allais dire Pompidou le premier, ils ne sont pas dans la petite église de Colombey-les-Deux-Églises. Eh bien, le témoignage de leurs descendants, des deux petites filles, l'une de Pierre Julitte, l'autre d'Alain Gaillet, donc Julie Gaillet, et du fils de Yves de Daruvar, Antoine de Daruvar, que j'ai recueilli, disent que quelle était leur relation à De Gaulle, parfois, encore une fois, assez tendue, et euphémise. Ce moment-là, le fait qu'ils soient tous entre eux à Colombey-les-Deux-Églises, pour les survivants, et on est en novembre 70, c'est un moment fondateur. C'est comme si, quelque part, la mort de De Gaulle et ce processus de non pas de panthéonisation, mais on pourrait presque dire de colombéisation, avait fonctionné à fond.
Avec ce que vous dites aussi, ce qui joue probablement, parce que c'est présent, on l'a évoqué en passant, mais Il y a quelque chose qui se joue quand même dans le rapport à la fois de Gaulle aux compagnons, mais aussi dans la mémoire historique qui en est. C'est la question aussi de l'usage du verbe par De Gaulle. C'est-à-dire que vous le soulignez vous-même à plusieurs reprises, que ce soit dans ses mémoires, que ce soit dans ses discours, alors on pourrait évoquer Bayeux aussi, on a quand même affaire à un écrivain réel et à quelqu'un qui a, dans l'usage qu'il a des mots et dans la science, surtout et dans la façon très sûre et même dans la rythmique qu'il sait faire de ses discours, quelqu'un qui produit quelque chose avec son verbe, ça c'est une première donnée, et qui ça produit de l'effet aussi. Et l'autre chose, pour rejoindre ce que vous venez de dire, c'est aussi là, pour le coup, le rapport à la France, qui est comme ce qui les unit. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout est dépassé, et c'est l'enjeu même de juin 40, parce que c'est justement la figure de Daniel Cordier qui, on va dire, vient d'un bord qui est un bord, on va dire, d'extrême droite, hein, clairement, et qui, au nom de la représentation qui se fait de la France, dit là, il y a quelque chose à faire, et c'est on va le faire dans ce cadre-là. Donc ça, je pense que tout ça se noue aussi dans la très grande fraternité indissoluble que vous évoquez très bien entre les compagnons de la Libération.
Forcément, et pour parler du rapport à la France, un des rares témoignages dont on dispose de l'enregistrement du 18 juin 40, enfin du prononcé de l'appel le 10 juin 40, j'en fais état dans le livre, c'est l'assistante de production qui s'appelle Susan Baker, qui va devenir après chercheur en sciences politiques, après-guerre, mais qui accueille De Gaulle, elle est assistante de plateau, hein, de studio, à l'entrée. Hein, il arrive avec Courcelles. Et elle rapporte, elle dit, c'est comme ça qu'on a l'heure d'ailleurs à laquelle De Gaulle est arrivé, parce que c'est dans le calpinage, si je puis dire, des passages à l'antenne. Elle dit, le technicien, comme ça se fait toujours en matière de radio ou de télé, en régie, enfin je dis avec les mots actuels, demande à De Gaulle de faire un essai de voix. Et il dit la France. C'est le mot qu'il trouve pour. C'est quand même assez surréaliste, oui, parce que c'est pas spontané. Hein.
Oui.
Bon, bien sûr. Avant qu'on commence cet échange, Pierre, vous avez fait la même chose quand on a fait un essai son. Vous avez dit Mola. Bon, mais voilà. Mais en tous les cas, il y a chez De Gaulle, cette espèce d'obsession, hein, qui sont d'ailleurs et qui constituent les premiers mots du premier tome de ses mémoires de guerre. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Bon, genre de phrase qui est quand même assez incroyable, prononcée par n'importe qui. On pense que ça pourrait être la première étape avant un traitement psychiatrique. Là, ça fait partie de l'histoire. C'est ça l'élément qui nous rapproche aussi, encore une fois, du mythe.
Hein. Tout à fait. Alors, justement, on y vient, la guerre s'achève et se pose la question de justement comment est-ce qu'on fait perdurer à la fois le souvenir, la célébration, avec deux choses distinctes. Alors, dans un premier temps, vous allez le rappeler, mais comme on le sait, De Gaulle est au pouvoir, et puis finalement, probablement moins longtemps qu'il ne l'imaginait au début. Et il y a d'abord, de sa part, deux souhaits qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont d'un côté l'idée de ne pas faire du 18 juin une sorte de contre-fête nationale. Ça, je pense que c'est très important, parce que ça aurait pu être aussi un choix de dire, voilà, il y a une sorte de renouvellement. Et en même temps, l'idée néanmoins de ne pas abandonner cette date-là comme étant le point à célébrer dans un double aspect qui est à la fois un rapport presque intime et aussi un rapport populaire.
Alors, on est dans une période qui est compliquée, hein, c'est la période de la 4e République, qui est celle aussi du moment où De Gaulle est encore au pouvoir jusqu'à janvier 46. Et je souriais tout à l'heure quand vous parliez de la fermeture de l'ordre des compagnons. Ça correspond à un décret qui prend le jour de son départ de la présidence du gouvernement provisoire. Hein. C'est pas un hasard quand même, hein. Parce que l'ordre est fermé ce jour-là. Hein. Il va être réouvert exceptionnellement pour, à titre posthume, le roi d'Angleterre. Hein, et puis pour Churchill, cette fois-ci pas à titre posthume, en 58. Mais jusqu'à partir de là, De Gaulle oscille entre est-ce que le 18 juin doit être un moment partagé par tous les Français, ou est-ce qu'il est réservé à mes compagnons ? Parce qu'on est dans une vraie bataille mémorielle et d'écriture de l'histoire. Et ça, c'est passionnant aussi de ce point de vue-là, parce que justement, un mythe vaut aussi par la manière avec laquelle on va l'écrire et on va entretenir, si je puis dire, la flamme du mythe. Et c'est pour ça que j'emploie cette expression. C'est quand même assez extraordinaire de constater que très vite, donc, le Mont Valérien devient un lieu où vont apparaître des éléments de commémoration, hein, avec une crypte provisoire, hein, avec des cénotaphes, où on va faire en sorte, contrairement au monument à la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, où on ne connaît pas l'identité, hein, de ce soldat inconnu de la grande boucherie de 14-18. Là, on connaît les noms et on les tire au sort. C'est comme ça que Bertie Albrecht va figurer parmi les cercueils de la crypte provisoire du Mont Valérien, chacune ou chacun représentant un des lieux où la France a combattu entre 40 et 45. Hein. Et même puisqu'il va y avoir l'ajout d'un combattant tué au Laos contre les troupes japonaises, hein, en 45. Et donc, pour allumer la flamme du Mont Valérien, ça c'est assez extraordinaire du point de vue de la passation, j'allais dire de la mémoire, on utilise la flamme de l'Arc de Triomphe. Donc, vous savez qu'elle n'a jamais été éteinte, y compris sous occupation allemande. Hein. C'est un petit peu comme dans la mythologie antique. On utilise la flamme de Zeus, dont on dit qu'elle est dérobée par Prométhée, pour la transporter et la donner aux hommes dans une férule. On prend la flamme de l'Arc de Triomphe et on la transporte au Mont Valérien pour ranimer la flamme du Mont Valérien. C'est assez extraordinaire, tout ça. On est quand même dans les éléments d'une mythologie qui s'écrit au fur et à mesure. Et ça va advenir jusqu'en 1958, retour au pouvoir du général de Gaulle, 18 juin 58. Et là, il prend la décision, d'abord en tant que dernier président du Conseil de la 4e, puis après en tant que premier président de la République de la 5e, de faire construire un mémorial au Mont Valérien, avec cette crypte, et puis un dernier cercueil, dont un temps derrière la légende va courir comme quoi ce serait pour lui. C'est extraordinaire, hein, alors qu'il n'en a manifestement jamais eu l'attention. Et ce dernier cercueil vide sera, entre guillemets, occupé par le dernier des compagnons décédés, et c'est donc Hubert Germain, qui est maintenant dans ce cercueil numéro 9, dans la crypte du Mont Valérien. C'est une histoire assez étonnante, elle est presque romanesque. Hein.
Parce que ce que vous avez évoqué en passant, c'est ce que vous dites, c'est qu'en parallèle de ce mythe-là, dont probablement, effectivement, le retour de Gaulle aux affaires va permettre l'achèvement, et puis aussi avec le deuxième moment qui va être l'entrée au Panthéon de Jean Moulin, qui est aussi un autre grand moment de la mythologie, se construit dans l'après-guerre, alors cette chose est un peu plus éteinte maintenant, qui est le mythe communiste, qui effectivement, finalement, le souhait de Gaulle, c'est à la fois construire une mythologie de son propre action, mais c'est aussi l'idée de lutter contre une sorte de contre-mythologie, qui est le parti des fusillés, dans un moment où le parti communiste est la première, selon les élections, la première ou presque la première force politique électorale en France.
On peut parler de concurrence des mémoires, hein, ou de concurrence des écritures de mémoire, mais on peut parler effectivement de concurrence de mythes, en effet. Hein, et très clairement, de Gaulle ne peut pas se satisfaire d'une seule écriture communiste, même si, j'allais dire, ensemble, et ça c'est très bien noté par Pierre Nora, je le cite dans un chapitre qui s'appelle Gaullisme et communisme dans les lieux de mémoire, un chapitre extrêmement lumineux. Hein. Ensemble, les deux vont s'entendre pour écrire une histoire dont on sait qu'elle est quand même extrêmement artificialisée, hein, reconstruite et réécrite. c'est l'histoire d'une France résistante qui se libère toute seule par ses combattants. Hein, voilà. Hein. Mais vous voyez, à l'intérieur de ce récit, qui est un roman national de la libération, eh bien, il y a bien concurrence entre les deux, au point que, alors j'ai plus exactement la date, je crois que ça doit être 18 juin, peut-être 48 ou 49, là où De Gaulle rend hommage à Leclerc, Philippe d'Hauteclocq, qui est disparu dans un accident d'avion tragique à Colombéchard. Et c'est là que le frère de De Gaulle, qui est président du Conseil de Paris, débaptise l'avenue d'Orléans en avenue du maréchal Leclerc à Paris. Eh bien, à l'occasion du 18 juin, De Gaulle prononce un discours extrêmement émouvant sur Leclerc. Mais il se trouve que c'est un samedi. Et le Parti communiste, dans les jours qui précèdent, disent « Attention, De Gaulle veut faire un coup d'État. Il va utiliser la date du 18 juin pour le faire. » Bon, je dis en note infrapaginale, est-ce qu'on imagine De Gaulle faire un coup d'État un samedi? Bon, ça n'a pas de sens. Mais c'était pour dire, en quelque sorte, comment cette concurrence, effectivement, des mémoires a été très vive jusqu'à partir de 1960. Là, quelque part, le PCF a d'autres chats à fouetter, oui, si je puis dire. Et laisse, en quelque sorte, le 18 juin. Mais c'est d'ailleurs, ça correspond à un moment où De Gaulle n'en fait plus des tonnes, passez-moi la trivialité de l'expression, à propos du 18 juin, et je compare à dessein, effectivement, le transfert des cendres de Moulin au Panthéon en décembre 64, avec le fameux discours de Malraux historique, où là, effectivement, le régime gaulliste, manifestement, s'approprie Jean Moulin, par rapport à ce qui est fait pour le 18 juin, qui est beaucoup plus soft.
Avec, alors... justement, il faut y venir pour conclure cet échange. Comme vous l'avez dit au début, il n'y a de mythe que s'il y a reprise, détournement, contre-mythe, critique, etc. Et là, donc c'est le troisième temps de votre ouvrage, alors qui est assez fascinant, parce que vous prenez alors essentiellement deux exemples très différents, l'un qui va être celui de l'appel de l'abbé Pierre en 54, et l'autre
L'insurrection de la bonté, comme
l'insurrection de la bonté, tout à fait. Alors, bon, je vous avoue, je connaissais mal cette histoire-là, mais en fait, il y a quand même une histoire très proche et très forte entre l'abbé Pierre, entre les personnes de l'abbé Pierre et la personne de De Gaulle, et spécifiquement de la famille de Gaulle. Et de l'autre, l'appel dit de Cochin, alors là, qui est un autre, qui n'est pas vraiment une insurrection de la bonté, par Jacques Chirac, alors qui est un moment très intéressant dans le livre, dans lequel vous procédez finalement. C'est presque un excursus dans lequel il y a tout un démontage de votre part, de la façon dont, à la fois, justement, comment est-ce qu'un appel dégénère parce qu'il n'est pas maîtrisé par son émetteur et que qui est une sorte d'inverse complet, pour le coup, du 18 juin, de quelqu'un qui, lui, était dans le contrôle permanent. Et donc, est-ce que vous pouvez, comme ça, nous évoquer, justement, pourquoi, pour vous, ces deux reprises, il était important de les citer et de quelle façon, finalement, elles participent à la perpétuation de cette idée que, dans l'histoire de France, depuis juin 40, l'idée de l'appel est une chose forte et finalement une tentative par bien des hommes politiques ou autres de se dire on va créer du réel en faisant un appel.
Alors, Pierre, vous citez effectivement les deux exemples que j'ai le plus développés, c'est-à-dire 1er février 54 et je crois que c'est 8 décembre 78 pour Cochin. Mais il y en a d'autres que j'évoque aussi, et en particulier un que je trouve peut-être le plus caractéristique d'une imitation ironique, c'est celui signé par, entre autres, les militants du mouvement du 22 mars, dont il faut rappeler que ce mouvement est à l'origine factuel. Il y a eu des prolégomènes des événements de 68 antérieurs, mais des fameux événements de 68, où là, c'est un texte qui est publié le 18 juin 68. On est à quelques jours des élections législative dont De Gaulle dira à Christian Fouché les élections de la trouille, hein, qui vont se terminer par, qui vont se traduire par un raz-de-marée et une chambre bleue plus qu'horizon à l'Assemblée nationale. Et ce texte de parodie de l'appel du 18 juin est extraordinaire parce que d'abord il est écrit par des militants, des gauchistes, hein, qui sont, qui vont des autonomes. À l'époque, on ne disait pas ça comme ça, on disait les Maos Pontex, les situationnistes, etc. Ça dénote une vraie, une grande culture politique. Hein, je vous dis d'ailleurs, de manière un peu méchante, dans une note infrapaginale, qu'on sent que les temps ont bien changé du point de vue de la culture politique chez les gauchistes. Mais il y a une vraie culture, puisqu'en fait, ça commence par les chefs militaires qui, depuis un certain nombre d'années, nous gouvernent. Donc, c'est vraiment à la parodie, c'est à la manière de l'appel du 18 juin. Et c'est un texte qui se lit, qui est, j'allais dire, extraordinaire d'imitation.
Oui, bon.
Mais, de fait, pour l'appel de l'abbé Pierre, là, on a un texte qui relève véritablement des mêmes modalités que l'appel du 18 juin. D'ailleurs, l'abbé Pierre reconnaît qu'il a été influencé et qu'il s'est inspiré de l'appel du 18 juin, y compris, c'est fascinant, par les tours de chauffe que fait l'abbé Pierre avant l'appel, un texte non plus non enregistré, c'est assez extraordinaire, dont il va falloir attendre les années 90, tenez-vous bien Pierre, pour que l'abbé Pierre le enregistre et le reprononce. Bon, donc ça c'est vraiment, j'allais dire, l'imitation inspirée. Et puis en face, alors c'est un exercice de style, j'en conviens, qui est un peu facile,
mais particulièrement plaisant.
ce document étonnant qui est donc l'appel dit de Cochin. Alors d'abord, vous avez vu que c'est pas une date, hein, c'est pas l'appel avec une date, c'est un lieu, c'est pas n'importe quel lieu, c'est un hôpital. Et puis c'est surtout ce que j'appelle un texte apocryphe renié par son auteur, hein, puisque par la suite, Chirac a ses biographes, a ses interlocuteurs, redécliné en plus par l'excellent Jean-Luc Barré, qui a été celui qui a tenu la, si je puis dire, non pas la plume,
presque,
mais le clavier des mémoires de Chirac. Je fais référence au livre ici chez Chirac. Hein, bien, on voit que Chirac, quelque part, il a, comme dit Pierre Péan, à Chirac, vous l'avez traîné comme un boulet, cet appel de Cochin. Hein. Alors, ça va avoir raison de Marie-France Garraud, hein, qui va faire les frais de l'opération, et de Pierre Juillet, mais qui sont les deux co-auteurs de ce texte signé, qui, quand on le relit, est absolument
très, très
étonnant, avec des outrances qui vont jusqu'à évoquer ce fameux parti de l'étranger.
Voilà. Mais en même temps, parce que c'est aussi le dernier point où on peut aboutir, c'est assez significatif d'un moment, et probablement d'un moment de bascule, où c'est aussi la question du poids des conseillers, la question du moment où les hommes politiques, sans pour ça qu'ils soient non plus invertébrés idéologiquement, mais peuvent déléguer une partie de leur considération idéologique à d'autres qu'eux-mêmes, etc. C'est aussi comme ça que vous le prenez, que vous l'analysez. Alors même si ça permettra la mue de Chirac vers un autre Chirac qui est celui des années 80, avant que lui-même ne mue dans les années 90, etc. Mais c'est aussi par rapport à quelqu'un qui a été donc le collaborateur de Pompidou, c'est aussi assez significatif d'un certain devenir d'une forme de personnage politique.
Oui, alors on sent quand même que Chirac est fasciné par la notion d'appel.
Hein, tout à fait.
Le fameux appel des 43, hein, qui va, pendant la campagne présidentielle de 74, planter, si je puis dire, le couteau dans le dos de Chaban. C'est Chirac qui est à la manœuvre et c'est un appel aussi. Mais après, il ne lancera plus d'appel après l'appel de Cochin. C'est comme si là, il avait été vacciné par l'affaire. Voilà. Et je cite, c'est un très beau texte de François Giroux qui s'appelle « Le dernier galop du cheval noir », hein, publié peu de temps avant, le 21 avril 2002, en pleine campagne présidentielle de 2002. C'est un très, très beau texte de François Giroux, comme on en a écrit comme ça, des textes, je veux dire, avec une acuité et une intelligence, où elle fait référence au cheval Et très souvent, je me plais à le reprendre à plusieurs reprises, Chirac est assimilé à un étalon, un cheval, parfois un cheval fou, mais également un extraordinaire, une extraordinaire bête de course, quoi. Voilà, hein. Mais pour revenir à cet épisode, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la volonté de Chirac, est quand même gaulo-pompidolien, si je puis dire, en tous les cas, qui fait référence, là encore, au mythe gaulien, hein, on voit qu'il y a quand même cette idée de dire, mais pour rentrer dans l'histoire, ouais, il faut que moi aussi, j'en signe un, entre guillemets. Hein, voilà. Hein, et c'est ça qui est assez... Qui est à la fois fascinant, mais qui donne une clé, peut-être, de compréhension de toute l'histoire. Voilà. Alors, au final, moi, ce qui m'a intéressé dans une approche, j'allais dire, politologique, hein, ou de sciences politiques, parce que c'est assez plutôt ma formation, je suis pas historien, hein, au sens académique, universitaire, je me garderai bien surtout d'utiliser ce terme. Ce que j'ai voulu montrer, c'est rapprocher cette considération de Max Weber dans Le savant et le politique, où effectivement Max Weber oppose apparemment l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, vous savez, cette fameuse rationalité en fonction des valeurs, hein, vertra rational, dit Weber, ou rationalité en fonction du but à atteindre, zweck rational. Donc, si on se limite à une lecture, j'allais dire, à un premier niveau et rapide de Weber, on se dit, mais c'est incompatible, l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité. Mais à peu près une trentaine de pages après avoir dit ça, Weber dit, celui qui réussira à concilier éthique de conviction et éthique de responsabilité, de celui-là, on pourra dire qu'il a la vocation politique. Et le texte de l'appel du 18 juin, c'est quand même un texte qui traduit et qui fonctionne à la fois dans l'éthique de conviction, l'éthique de conviction de la grandeur de la France, l'éthique de conviction que la France n'est pas seule, qu'elle a un empire, que la guerre peut se poursuivre ailleurs, qu'il ne faut surtout pas renoncer, l'éthique de conviction que la guerre va être mondiale, ça c'est quand même assez incroyable de dire ça, le 18 juin 40, d'écrire ça le 18 juin 40, quand on connaît la suite du film, hein, puisque c'est simplement 21 juin 41, Barbarossa, et 7 décembre 41, Pearl Harbor. Donc la conviction, tout ça, c'est une guerre mondiale, et la responsabilité qui est celle de la résistance qui doit générer en quelque sorte un nouveau régime, un nouvel État, etc., etc. Et donc là, on voit bien que quelque part, outre le fait que c'est un mythe, dans le mythe, l'appel du 18 juin, c'est aussi en quelque sorte l'acte de baptême de Charles de Gaulle, homme politique.
Jean Poteau, merci beaucoup du rappel justement de cette vocation politique du général de Gaulle, et puis surtout merci de montrer comment il est encore possible historiquement d'agir par la parole. Et merci beaucoup pour cette lecture que vous nous avez proposée.
Merci à vous, Pierre. Merci.